Mes chers amis, bonjour. Je suis absolument enchantée d'être de retour avec vous après cette petite pause hivernale. Une pause bien méritée, je dois vous dire, puisque j'avais une année 2023 qui a été très très intense sur la fin d'année. Je suis sûre que c'était le cas pour beaucoup d'entre vous. Et là, je suis à nouveau en pleine forme pour une année qui, je suis sûre, va être haute en couleur. D'ailleurs, j'ai plein de surprises pour vous. Beaucoup, beaucoup de petits changements à venir sur le podcast. Des choses qui, j'espère, vont vous plaire parce que j'ai envie en permanence de me renouveler et de vous apporter de la nouveauté, des choses qui vont vous plaire. Et je veux également, bien sûr, vous dire que j'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps. Je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est aussi engagée, des personnes qui me suivent sur les réseaux, que vous me suivez toujours, toujours autant sur le podcast, même de plus en plus. Enfin, on est quand même 500 000 à peu près par mois maintenant ici. C'est quand même assez fou quand j'y pense, en 5 ans à peu près. Et donc, je veux continuer à honorer votre fidélité, à vous apporter les meilleurs contenus possibles, à continuer à me creuser la tête avec mon équipe pour vous apporter les meilleurs invités. Je vous souhaite également une très belle année 2024, qui j'espère va vous apporter tout ce que vous méritez, tous les succès que vous entreprenez et vraiment beaucoup beaucoup de belles choses aussi à titre personnel. C'est vraiment tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Comme je disais, pour cette année 2024, j'ai voulu commencer par un nouvel épisode de podcast pour commencer l'année donc avec finalement beaucoup d'espoir, avec beaucoup de belles choses, et donc je me suis dit que le mieux ce serait de réinviter l'un des tops invités du podcast, un invité qui avait fait un nombre d'écoutes colossal, parce que c'est tout simplement une personnalité extraordinaire. C'est un homme qui est entier, c'est un homme qui est sincère. Vous allez voir, il a même versé quelques larmes pendant cet épisode de podcast, et pour ça je l'en remercie, parce qu'en fait c'est une personne qui vraiment se donne, qui se livre. C'est quelqu'un qui est extrêmement sincère, tout simplement, et ça c'est très appréciable. Cette personne, c'est Xavier Fontanet, l'ancien CEO de Essilor, vous savez, l'entreprise mondiale maintenant, qui est le leader du monde de du verre de lunettes notamment, mais pas que. Et donc, j'avais déjà fait un épisode avec Xavier Fontanet il y a maintenant 2 ans. On s'était dit à ce moment-là que c'était tellement fort comme épisode qu'il fallait absolument que je réinvite Xavier quelques années plus tard pour faire une V2, pour faire une nouvelle version de l'épisode de podcast, mais sous une accroche différente. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et cette fois-ci, je me suis dit que le mieux, ça serait que je pose des questions à Xavier, non pas sur son parcours réellement, mais plutôt sur un thème prédéfini, qui est le thème de la stratégie. Et donc, on a fait avec Xavier une espèce de masterclass géante sur la stratégie. La stratégie d'entreprise, mais aussi la stratégie personnelle, vous allez voir. Et j'ai trouvé que cet épisode était passionnant parce que Xavier n'arrête pas d'étayer son propos, qui est assez conceptuel évidemment, avec des éléments très concrets, des exemples de son propre parcours, de ce qu'il a pu observer autour de lui. Donc on a vraiment été dans le fond du fond des sujets. Et je remercie une fois de plus Xavier d'avoir accepté de se livrer avec autant de sincérité sur tous ces sujets et surtout avec autant de passion. Pour terminer, écoutez l'épisode jusqu'au bout parce que après cette masterclass de stratégie, on a fait également une espèce de session de la bibliothèque idéale de Xavier Fontanet et c'est génial. Il nous a sorti mais vraiment quasiment une dizaine d'ouvrages qui sont pour lui les livres cultes de stratégie, d'entrepreneuriat, de business, de développement personnel et professionnel. Vraiment, sa bibliothèque idéale, la bibliothèque d'un grand homme. Je trouve que ça vaut de l'or et donc je suis très très heureuse de pouvoir vous l'apporter dans cet épisode de podcast. Je remercie une fois de plus Xavier d'avoir accepté de se prêter au jeu une deuxième fois alors qu'il est très occupé. N'hésitez pas à le remercier aussi, je suis sûre qu'il y sera sensible. Il est très présent sur Twitter, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message, il en sera ravi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Xavier Fontanet. Bonjour Xavier.
Bonjour, bonjour. Bonjour Pauline.
Xavier, vous savez que vous faites partie des rares invités que j'ai invités pour la deuxième fois.
Quel honneur.
On s'était promis il y a 2 ans.
Oui, on avait parlé effectivement. Si vous rappelez, oui, j'arrive exactement à l'heure prévue. Oui.
Exactement, vous êtes très ponctuel Xavier.
Oui, absolument. Ah oui, la ponctualité, c'est une vertu très importante, je crois.
Je vous remercie d'avoir accepté. En fait, donc je ne sais pas si vous le savez, mais votre épisode de podcast qu'on a fait ensemble, et je vous en remercie encore, a été l'un des plus écouté, ce qui n'est pas peu dire. Il a rassemblé des centaines de millions d'écoutes, littéralement.
Oui, d'accord.
Et puis au-delà de ça, j'ai reçu beaucoup de messages, je crois, vous aussi.
Oui, beaucoup de messages. Vos émissions sont vues.
Tout à fait.
Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages.
Et en fait, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Pauline, invite Xavier à nouveau pour nous faire une masterclass de stratégie. »
Okay.
Donc, si vous l'acceptez, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui.
Bon, c'est très, très bien. Non, c'est une très bonne idée parce que je pense qu'effectivement, c'est très important que les Français connaissent mieux l'économie. Et la stratégie d'entreprise, c'est une très belle entrée dans la stratégie, dans la connaissance de l'économie.
Exactement. Ouais. Alors, si ça vous va, Xavier, j'aimerais déjà commencer par aller contre des idées reçues, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont des entrepreneurs, qui sont des dirigeants de petites entreprises aussi, et qui se disent « la strat, c'est pas pour moi, c'est pas très intéressant ». Et j'aimerais donc vous poser la question, à quoi ça sert la stratégie, même pour un dirigeant de petite entreprise, ou même pour un employé dans une entreprise, par exemple.
Alors si vous voulez, la stratégie, on peut donner déjà une petite définition. En fait, c'est l'art d'allouer les ressources humaines et financières contre des concurrents qui eux-mêmes ont une stratégie. Voilà, vous voyez donc. Et en fait, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est universel et intemporel. C'est-à-dire qu'on a trouvé des règles qui valent aussi bien pour les grandes, les moyennes et les petites entreprises, et c'est les mêmes règles qui valaient il y a 1000 ans ou il y a 500 ans à Venise et à Amsterdam. Hein.
C'est ça qui est fou.
C'est ça qui est très intéressant. Ouais. Vous allez voir, il y a des découvertes très récentes qui permettent d'arriver à reconstruire tout ça. Et donc ça m'amuse énormément. Et puis c'est un petit effort aussi. Alors moi-même, si vous voulez, j'ai travaillé dans des grandes, des moyennes et des petites, parce que j'ai commencé au BCG. On a commencé à 6, vous voyez, et ils sont 1500 aujourd'hui à Paris. Puis j'ai travaillé dans des PME Beneteau. Donc quand j'ai rencontré la première fois Madame Roux, il y avait 100 personnes, vous voyez. Et aujourd'hui, ils en ont 10 000. Hein. Après, j'ai travaillé dans les cantines. Alors c'est un autre métier, c'est le métier des services. Hein, alors que Beneteau, c'était l'industrie. Ouais. Et donc le service, et puis donc j'ai passé 6 ans chez Eurest, qui était un des leaders de la restauration collective. J'ai retrouvé les règles de stratégie s'appliquer. Hein. Et puis évidemment, Essilor, c'est là que j'ai passé 23 ans. Et j'ai connu l'entreprise toute petite parce que je l'ai connue à 800 personnes, vous voyez. Et quand je suis parti, c'était 100 000. Vous voyez, donc ça fait, c'est les mêmes règles qui s'appliquent à tout le monde. Et évidemment, j'ai eu la chance de travailler dans le monde entier, hein, de diriger des entreprises, enfin, d'être président de joint venture commune ou de société d'Essilor aux États-Unis, en Corée, au Japon, en Chine et en Inde. Et je peux vous dire que ça marche dans tous les pays. Hein, donc, la stratégie, vous allez voir, c'est assez abstrait. Hein. Alors, c'est abstrait, mais c'est concret. Hein. Et le passage entre l'abstrait et le concret est très facile. Et si on fait un bon travail, je pense qu'en 1h30, on peut arriver à... Alors, on va vous faire rentrer dans le monde passionnant. Hein. Et puis, éventuellement, Pauline, après, je vous donnerai la bibliothèque idéale.
Ah bah, avec grand
plaisir.
On va
faire travailler tout le monde. Je vous dirai les 5 livres à lire.
Ah bah, avec grand
plaisir.
Et là,
les gens partiront pour une année de travail.
Des lectures.
Et on se donnera rendez-vous le coup d'après. Voilà.
Alors, on va se lancer dans le vif du sujet parce qu'on a un peu de boulot ensemble.
La route est longue. Hein. On va monter une montagne un peu escarpée.
C'est ça.
Donc je vous dirai quand c'est escarpé.
Attention, accrochons nos ceintures. Première idée force, la courbe d'expérience. Oui. J'aimerais qu'on rentre tout de suite dans ce sujet.
Oui. Alors là, il faut vraiment rendre hommage à Bruce Anderson, hein, qui est le fondateur du BCG. Donc, il était un grand entrepreneur. Il était président de Westinghouse. Et il a décidé à sa retraite de démarrer ce groupe. Et alors, son intuition de base, il a eu deux intuitions. La première intuition, c'était le concept de courbe d'expérience. C'était qu'il s'était rendu compte que les courbes d'offre et de demande ne fonctionnent pas dans les marchés qui croissent à toute vitesse. Et les premiers clients qu'il a eu, c'était Texas Instruments. Hein. Donc, dans les années 64, c'est très important, c'est un moment où on a inventé les microprocesseurs. Et Fred Bussy, qui était le patron de l'époque, qui était ami de Bruce Anderson, avait un problème très compliqué, c'est que le problème sympa, c'est que les volumes explosaient, le marché doublait tous les ans. Le problème difficile, c'est que les prix avaient été divisés par 10 en 4 ans.
Les coûts de fabrication.
Les prix de marché.
Ah, les prix de marché, d'accord.
Et donc, en fait, comme ça marchait très bien, il fallait investir. Et il fallait faire un plan moyen terme. Et alors, dans son équipe, il y avait 3 familles de gens. Il y a les gens qui disaient, les prix sont trop tombés, ils vont monter. Donc, dans votre plan moyen terme, faites remonter les prix. D'autres qui disaient, on est arrivé aux limites, ils vont rester plats. Puis d'autres qui disaient, non, on est au début d'un truc, ils vont descendre. Et alors, c'est là que Bruce a fait preuve de tout son génie, puis qu'il a eu de la chance. Hein. Il a inventé un concept très important qui est la production cumulée de toute l'industrie. Hein, donc, il a été chercher tous les fabricants, tous les concurrents. Il a regardé ce qu'ils produisaient. Et il a dit, ce qui compte, c'est pas le volume annuel. Ce qui compte pour expliquer les prix, c'est la production cumulée de toute l'industrie. Et on va voir à quelle vitesse elle monte. Et quand il a aligné les prix des années avec la vitesse d'accumulation d'expérience, il s'est tombé sur une droite. Alors, en papier logarithmique, hein. Alors, ça faudra peut-être travailler un tout petit peu. Mais en gros, je vais vous dire les choses de façon plus simple. En fait, le mécanisme des prix, c'est que chaque fois que l'expérience cumulée doublait, les prix baissaient d'un pourcentage constant de 25%. Hein. Donc, retenez ça. C'est exactement, vous savez, comme un marché dans les poissons. Si une poissonnière s'amuse à baisser le prix du maquereau de 25%, elle en vendra 2 fois plus. C'est exactement le mécanisme. Hein. Et donc, en fait, les prix baissaient de 25% chaque fois que la que le, l'expérience cumulée de l'industrie
ouais.
hein, et c'est ça qui explique si vous voulez pourquoi les prix ont été divisés de 1 million.
Et vous me disiez par exemple
parce
vous
que,
me disiez sur l'iPhone par exemple.
Ben, oui oui, l'iPhone si vous voulez personne ne sait mais par rapport à l'époque que je vous montre 1964,
ouais.
vous voyez donc ça fait 60 ans on est en 2024 quasiment, les prix ont été divisés par 1 million. Hein. Donc l'iPhone que vous avez, c'est quelque chose qui vaut en gros 500 millions d'euros. Il y a eu l'inflation, il faudrait diviser par 5 parce que sur 60 ans. Et, mais en gros, vous avez un truc qui vaut 100 millions d'euros, sans savoir, vous voyez. Et ça, c'est grâce à bah, tous les progrès qui ont été faits.
Alors,
c'est une véritable révolution qu'entre nous, les économistes, n'ont pas tout à fait encore intégré.
Et alors, comment est-ce que voilà. ça s'applique pour un petit dirigeant d'entreprise ou est-ce que vous auriez un exemple, peut-être même dans votre propre vie, quoi
Moi, j'ai toujours vécu l'effet d'expérience. Alors, c'est très simple. C'était, j'ai vécu dans les bateaux. Bateau de plaisance où j'ai connu Beneteau qui était donc une toute petite entreprise quand on a commencé à faire ouais. du conseil. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que les prix de revient baissaient de 25% chaque fois que le tonnage cumulé, doublé. Et donc, on a poussé Beneteau à produire un maximum. Mmh. Et c'est comme, exactement comme une chaise. Si vous, on va s'amuser à acheter 10 chaises chez Ikea. Des chaises un peu compliquées. Bah, la première chaise, si je vous la fais monter, vous allez mettre une heure.
Oui, oui.
La deuxième, trois quarts d'heure. Et puis, à la dixième, vous la montez en 10 minutes. C'est exactement le phénomène. Et ce phénomène joue dans tous les métiers de produits. Dans le service, c'est plus des histoires de densité géographique. Par exemple, si vous voulez, moi, dans les cantines de Rest, on était rentable dans les villes où on avait beaucoup de restaurants. Parce que quand vous avez beaucoup de restaurants, mais les camions qui alimentent les restaurants, ils sont remplis, donc le prix de revient de livraison est tout petit. Et puis comme tous les patrons des restaurants, ben ils ont les copains à côté, hein, dès qu'ils échangent les techniques, donc les savoir-faire des restaurateurs de Rest étaient beaucoup plus élevés dans les villes à forte densité que quand il y avait une pauvre restaurant planté dans la nature. Oui, le truc. Donc l'effet d'expérience, il joue tout le temps et il joue aussi bien dans
plus il y a du volume, plus il y a du gain d'expérience voilà, donc plus il y a du bénéfice. Quoi.
Exact. Alors effectivement, si vous voyez, le truc qui s'est passé, c'est que si les prix baissent, c'est forcément que les coûts baissent. Mmh. Parce que si les coûts baissent moins vite que les prix, tout le monde est en faillite.
Bien sûr.
Et si les coûts baissent plus vite que les prix, la concurrence fait casser les prix. Donc, le seul explication, c'est que ce qu'on vous a expliqué sur les prix des microprocesseurs, ça s'est retrouvé sur les coûts. Mmh. Bon. Et alors là, il y a un phénomène qui est absolument capital. Et c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre, c'est que à partir du moment où vous croyez dans la courbe d'expérience, la personne qui a la plus grosse part de marché, c'est celle qui a le plus d'expérience. C'est celle qui est le plus en bas de la course, vous voyez. Mmh. Et celle qui a une petite part de marché, elle est en haut de la courbe. Comme le prix, c'est en général le leader qui le fait, le prix se prend sa marge, il met son prix pour à sa marge, et puis si les suiveurs sont très loin, eh ben, les prix sont sous leur coup, ils perdent de l'argent. S'ils sont près du leader, ils gagnent de l'argent. Et donc, en fait, le mécanisme est là. Et vous expliquez par ce mécanisme d'expérience, pourquoi dans le même métier, il y a des gens qui font beaucoup d'argent et des gens qui en font beaucoup moins. Prenez la voiture. Si vous regardez, par exemple, Toyota, qui est depuis 20 ans le leader absolu, vous verrez, il a tout le temps les mêmes résultats, c'est lui qui met les prix. Et il est toujours rentable, crise ou pas. Hein. Alors que vous prenez les petites sociétés à 2-3 millions de voitures. Alors Toyota doit faire 14 millions de voitures. Prenez les petites sociétés à 2-3 millions de voitures, vous avez vu, elles sont toutes en faillite et elles sont toutes rachetées. Vous voyez ? Et donc, il y a vraiment un effet d'expérience sur la voiture. Et il y a un cas très, très intéressant qui est Stellantis.
Stellantis,
c'est l'ancien Peugeot.
D'accord.
Ben, vous avez vu Stellantis, en fait. Quand c'était Peugeot et Fiat, les deux boîtes gagnaient pratiquement pas d'argent. Alors, il y a eu tout le talent, évidemment, de Tavares et des équipes.
Bien
de
sûr. Peugeot.
Mais quand ils sont mis ensemble et qu'ils sont montés à 10 millions de voitures, les résultats ont explosé. Donc, vous avez une preuve magnifique de l'effet d'expérience.
Il y a un bénéfice énorme, et ça, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, à avoir du volume, à aux effets d'échelle. C'est quelque chose de réel qui fait que plus on est gros, plus on peut fixer les prix, plus on peut gagner
l'expérience. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la taille du métier. C'est tout à fait vrai pour un petit métier. Il y a un truc très amusant que je dis toujours. Regardez, par exemple, dans une place où il y a des restaurants. Vous allez voir, il y a trois restaurants. Il y en a toujours un qui est complètement rempli. Il y en a un qui est vide. Ça joue au niveau d'une place. Vous allez voir.
Et plus vous mettez de monde dans un restaurant, plus ça appelle le monde aussi.
Bien sûr. Oui. Et à ce moment-là, il avait fait l'expérience. Il est moins, il a des prix de revient beaucoup plus bas parce qu'il a beaucoup de volume dans le restaurant.
Il est aussi meilleur dans ce qu'il produit.
Il peut faire de la pub, il améliore les trucs. Ouais. Et puis donc le jeu se joue. Exactement. Aussi bien au niveau mondial, dans le cas des microprocesseurs, qu'au niveau local, dans un restaurant.
Mais ça, c'est très important, vous voyez, Xavier, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se disent, ah, mais c'est pas pour moi. Et au contraire.
C'est pour tout le monde.
C'est plus on a du, enfin, en fait, il faut se forcer à avoir le maximum de volume le plus vite possible.
Dans son métier, hein. Ouais. Hein, d'accord. Donc, faut bien définir le métier. Ça, c'est une autre affaire. Là, vous m'inviterez l'an prochain. On fera une petite séance. Parce que si je commence, ça va prendre du temps.
Non, mais
on met les pierres angulaires.
Et je pense que là, on a bien compris déjà.
Il faut que les gens aient du goût. Parce qu'à la fin, vous allez avoir des lectures. Hein. Donc,
C'est pour ça. Alors, compte d'expérience, je pense qu'on a compris. Ça veut dire que... je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais on a compris compte d'expérience.
Si, répétez ça. Comme ça, vous avez compris.
Non, mais compte d'expérience, ça veut dire que plus on a d'effet d'échelle, plus on a de volume, voilà, plus en fait on appelle du volume et plus en fait on va réussir parce qu'on va pouvoir fixer le prix, etc. Donc en fait ça compte aussi pour des petites entreprises. C'est marrant. Moi, je n'ai pas été au BCG, Xavier, mais je vais vous dire quelque chose.
Moi, vous voyez, c'est amusant, j'ai un ami qui a une société qui fait des films comme vous ici.
Ouais.
Et ben lui, par exemple, il s'est fait dépasser en volume par les concurrents et il a pas perdu, mais il a gagné plus d'argent. Parce qu'il a vu des concurrents qui ont monté des studios plus gros que le sien, qui étaient mieux équipés. Avec des personnes meilleures.
Bien sûr. Et même sur les réseaux sociaux, par exemple, bien la sûr. Création de contenu, le volume, en fait, fait qu'on va avoir plus d'expérience. Et donc,
je vais vous aider, Pauline.
Vous m'aidez.
À avoir des grandes parts de marché qui vont attirer la pub. Et puis après, comme ça, on aura des émissions avec encore plus de monde.
Exactement.
Voilà.
Point numéro un, c'était la courbe d'expérience. Point numéro deux, la finance. La finance comme ennemi de la stratégie, qui est un peu une idée reçue.
Voilà. Alors, vous savez, toujours, on parle de la financiarisation de l'économie, des financiers qui font du mal et tout ça. Alors, non, il est sûr qu'il y a des gens pas corrects dans la finance et y a pas, le monde n'est pas rempli de saints, hein, c'est évident. Mais, la deuxième grande invention de Bruce Anderson, c'est le concept de constance de rotation d'actifs. Alors, le mot est compliqué, on va le décortiquer. Il part simplement de l'idée que quand vous avez une activité, il faut du capital. Alors, je prends un exemple simple. Si vous voulez faire des voitures, eh ben, vous avez besoin des usines, il vous faut des matières premières, il vous faut des stocks de produits finis, hein. Alors, en gros, si on veut faire 1 million de voitures, la facture, c'est 20 milliards d'euros. Le million de voitures, hein. Et, si vous voulez faire 2 millions de voitures, eh ben, il faut remettre 20 milliards d'euros. Le capital ne se met pas à tourner d'un seul coup à l'infini. On a une constante. Alors ça, c'est vérifié dans tous les pays. Depuis 50 ans, vous prenez tous les bilans, vous allez voir, vous avez une constante de rotation d'actifs.
Et alors, même sur des petites entreprises.
Alors, bien sûr, sur les petites entreprises, c'est toujours valable et il suffit de bien faire les calculs. Et alors ça, c'est une règle qui est absolument fondamentale et c'est elle qui va être la matrice ou le fondement du lien entre la finance et la stratégie. Et c'est grâce à ça que vous allez comprendre comment caler vos finances. On va prendre un exemple très simple, Pauline. On va prendre une entreprise, par exemple, qui fait un chiffre d'affaires de 100. Hein, et pour simplifier, on va dire qu'il faut des capitaux de 100.
Okay.
On va dire que c'est une boîte qui fait de la chimie.
Okay. Hein,
un rapport de, donc le ratio est 1 pour 1. Si vous avez un chiffre d'affaires de 100 et que vous gagnez un bénéfice de 20, bon. Premier temps, vous allez tout réinvestir. Donc, comme il y a les actifs de 100, ben les 20 vont aller, les actifs l'année suivante, c'est 120. Comme vous avez 120 d'actifs, vous faites 120 de chiffre d'affaires. Donc, deuxième année, vous allez gagner 20% sur 120, vous avez 24.
Ouais.
Que vous rajoutez aux 120, ça fait 144. Donc, vous comprenez que le taux de croissance de l'entreprise, c'est 20%, et la rentabilité, c'est 20 sur les 20 d'actifs. Donc, quand vous ne versez pas de dividendes, votre croissance est égale à votre rentabilité. Maintenant, payer un dividende. Supposez que, on prend la même entreprise, la seule différence, c'est l'actionnaire n'est pas le même. L'actionnaire veut un dividende de 10. Donc, l'entreprise va gagner 20 et paiera 10 de dividende. Elle investit 10. Les 10 se rajoutent aux 100, qui deviennent 110. Le chiffre d'affaires l'année suivante est de 110. Hein? Il va gagner toujours 20%, c'est 22. Il va payer 11 de dividende. Il réinvestit 11 sur les 110, ça fera 100 matières. Donc là, l'entreprise, elle croît à 10.
Bien sûr.
Sa rentabilité est 20. C'est le dividende qui a divisé la croissance par 2. Prenons un troisième actionnaire. L'actionnaire dit, je veux pas de dividende. Chaque fois que je gagne 20, je remets 20 de dette. Je m'endette de 20. Ah. À ce moment-là, la l'entreprise, eh ben, elle va croître à 40%. Alors, vous comprenez le point fondamental, c'est que la politique financière, là, que j'ai résumé à dividende, dette, hein, parce que c'est ça qui se passe, tout le monde n'est pas en bourse. Hein. Dividende dette, c'est
Elle a un impact énorme sur la croissance.
Parce que si vous avez une entreprise qui, dans le même métier, il y en a un qui s'endette, qui croît à 40% par an, l'autre qui prend un dividende de 10, qui croit à 10, ben, on peut faire le calcul. Je veux dire qu'au bout de 10 ans, la personne qui croit à 40% aura multiplié, je sais plus combien, par 30, vous voyez, hein. Alors que l'autre, elle aura multiplié par 2,5.
L'autre, elle se sera enrichie peut-être à titre personnel.
Alors, à court terme, il aura tiré du cash, mais au bout de 10 ans, il perd de l'argent. Ouais. Parce que la courbe d'expérience de celui qui est 30 fois plus gros, eh ben, elle est en dessous et il vous coule. Vous voyez, donc, si quelqu'un a été trop conservateur, bien sûr, il tire du cash, mais, et donc, le grand jeu, c'est en échange du cash qu'on départ de marché.
Et c'est aussi vraiment ça, la stratégie, c'est d'avoir une vision long terme, parce qu'en fait, typiquement, celui qui pense qu'à se mettre du cash dans ses poches, bon, il peut, mais c'est très court-termiste.
Absolument. Voilà. Ben, vous avez pigé. Voilà. Hein, vous voyez. Et donc, c'est là, il a fait de la finance l'allié de la stratégie, hein, grâce au concept de constance de rotation d'actifs. Hein. Alors, vous oubliez ce concept qui est là parce que de toute façon, il est dans votre entreprise. Et alors, vous comprenez que c'est ça qui devient passionnant, c'est dans la stratégie, il y a des moments où il faut savoir quand on accélère et quand on freine.
Bah, c'est ça.
Puis quand on met de l'argent au départ, il faut savoir quand on le retire. Faut pas le retirer trop tôt. Vous voyez? Donc, on vient de voir, donc, la deuxième pierre angulaire de la stratégie. La première, c'est la part de marché. La deuxième, c'est comprendre que la finance est l'ami de la stratégie.
Et ça, bien sûr, Xavier, on le fait aussi par rapport aux concurrents, puisque la stratégie, c'est aussi une allocation des ressources par rapport à la concurrence.
Exactement. Alors, si vous voulez le grand jeu, alors moi, je peux parler vraiment de Beneteau, qui est un cas absolument exceptionnel. Donc, j'ai connu l'entreprise et moi, j'y suis rentré, j'étais au BCE. Pourquoi? Parce que Madame Roux, la présidente, elle était numéro 4 de l'industrie. Donc, il y avait des gens beaucoup plus gros, des Jeannot et Dufour, mais les gens beaucoup plus gros ne s'endettaient pas et payaient des dividendes de 75% du bénéfice.
Oui.
Donc, ils étaient hyper rentables. Bah oui. Ils étaient hyper rentables. Vous voyez, ils avaient des rentabilités de 40%. Mais comme ils payaient les deux tiers, ils croissaient à 10. Madame Roux était plus petite, mais non seulement elle payait pas de dividendes, mais s'endettait et croissait à 40%. Et donc, moi, je lui ai dit, ben, vous avez la stratégie, moi, je rentre chez vous, on va faire sauter tout le monde. Et on a fait sauter toute l'industrie. Et Beneteau est devenu leader mondial grâce à ses politiques. Donc, on ne parle pas on parle de choses très sérieuses.
Et ça se fait en combien de temps, petite ça, Xavier?
Boîte. Alors, si vous voulez, le leadership, il a été pris en 10 ans.
Ouais, c'est ça. En fait, ça se fait à une échelle d'une dizaine d'années. Donc, c'est à la fois long et pas très long.
Le marché croissait, vous voyez, le marché croissait à 25% par an. Beneteau croissait à 45. Et Jeannot croissait à 8. Vous voyez, donc, la différence de vitesse, quand j'ai rencontré la première fois Beneteau était 3 fois plus petit que Jeannot. Et puis 10 ans après, il était 3 fois plus gros. Vous voyez, il y a eu un écart de 10 sur 10 ans avec la différence de vitesse. C'est exactement le cas. Alors ça, c'est un cas d'école. Alors pour moi, ça a été une démonstration absolue que j'ai utilisée toute ma vie. Hein, toute ma vie. Alors là, il faut aller vers la troisième pierre angulaire. Et parce
tout à fait. J'allais y venir.
Vous allez vous lisez dans ma tête. Je vois que vous lisez dans ma tête.
On est très complices, Xavier. Donc, troisième pierre angulaire, le cycle de vie.
Exactement. Alors, ça, c'est une autre découverte. Alors, on va dire, là, c'est Schumpeter. Hein. C'est Schumpeter qui vraiment est la personne qui a apporté à savoir-faire. C'est ce qu'on appelle la destruction créatrice. Alors, en fait, le marché, vous êtes sur un marché, un métier. Donc, il faudra une autre émission pour expliquer vraiment bien ça. Mais on va dire qu'on a compris ce que c'est que le métier. En fait, les métiers ont des cycles de vie. Hein. Vous savez très bien que les diligences, c'était le moyen de transport. Et qu'est-ce qui a coulé la diligence? C'est le train. D'accord? Dès qu'on a inventé l'acier. Hein. Bon. Et puis après, qu'est-ce qui a vraiment fait couler le train? C'est l'invention du pneu qui a créé la voiture. Vous voyez? Hein. Puis après, il y a eu l'avion. Hein. Donc, en fait, tous les métiers ont des cycles de vie. La bougie. Bon, bah, la bougie, au départ, des bougies. Puis après, ça a été tué par la lampe à filament. Puis après, puis maintenant, c'est les diodes et les LED. Vous voyez? Donc, tous les métiers, l'appareil photo, papier, appareil de photo numérique, aujourd'hui. Donc, tous les métiers ont des cycles de vie. Et alors, donc, ça veut dire que votre métier, il croît. Puis à un moment donné, il se stabilise. Puis il descend. Quand il croît, c'est qu'il remplace. Et quand il descend, c'est qu'il est remplacé. Donc, en fait, la description de l'économie, c'est pas du tout un élément uniforme, comme certains tentent de l'expliquer, où tout le monde bouge en même temps. Pas du tout. L'économie, c'est une superposition de métiers qui montent et métiers qui descendent. D'accord? Et puis, à l'intérieur des métiers, de gens qui se concurrencent. Alors, toute la mécanique des cycles de vie, ça vous explique la croissance de votre métier. Et la lutte interne dans le métier, ça vous explique les marges. Vous comprenez le truc? Et donc, l'économie, c'est un foisonnement d'entreprises qui sont dans des métiers et qui se concurrencent à deux niveaux. Est-ce concurrence dans le métier et est-ce concurrence entre métiers? Par exemple, dans l'optique, vous voyez, j'étais dans les verres de lunettes. Bon, ben, un grand concurrent, c'est le verre de contact. Bon, nous, Essilor, on ne pouvait pas rentrer dans le verre de contact parce que c'est de la pharmacie. Vous voyez? Et nous, c'est de la mathématique et de l'optique.
Ouais.
Bon. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez, les lunettes que j'ai fait, c'est des lunettes très légères. Parce que le verre de contact est, et puis on expliquait que les femmes étaient plus jolies avec des lunettes, vous voyez, que les hommes préfèrent les myopes, vous voyez, par exemple.
Ah bon?
Bon, ben bien sûr. Mais ça, vous le savez pas, donc.
Bah, donc je suis triste parce que je ne suis pas myope, donc.
D'accord, mais même les hypermétropes, etc. Puis c'est un, bon, ça bijoue finalement, oui, une monture. Bon. Donc, on luttait comme ça, vous voyez, et les gens disaient, donc, il y avait une lutte entre les verres de contact et les verres de lunettes. Et dans les verres de lunettes, il y avait Hoya, Zeiss, nos concurrents. Et donc, ça luttait à deux vitesses.
Ouais,
vous voyez,
complètement. Hein.
Et alors, en améliorant les verres, la faiblesse du verre de contact, c'est que l'acuité est pas parfaite. Nos verres ont des acuités géniales. Donc, nous, on luttait avec la qualité de la vision. Les verres de contact, c'était le look. Donc, nous, c'était la vue, eux, c'était le look. Vous voyez le genre de choses qu'on fait? Et donc, c'est très intéressant parce que.
Comprendre aussi quel est votre univers concurrentiel, mais de manière beaucoup plus large, pas juste le compétiteur
exactement.
Direct, quoi.
Et si vous voulez lutter contre un métier différent, vous fait améliorer votre métier.
Ouais.
Et on affine les verres.
Bah, je vous donne un exemple. Nous, vous savez, donc, j'ai une marque de joaillerie.
Bien sûr.
En fait, je suis pas du tout en concurrence avec de la joaillerie. En fait, c'est un achat cadeau pour des moments importants de vie. Donc, en fait, ça peut être des hôtels, ça peut être des voyages, finalement, qui sont mes concurrents, quoi.
Absolument.
C'est tout ce qui est, en fait, expérientiel.
Exactement. Hein, c'est le cadeau. Le cadeau qui est un produit ou qui est un service. Vous voyez, vous avez les cadeaux. C'est un vrai sujet. Par exemple, la nouvelle génération veut plus ils sont plus intéressés au grand moment que, donc c'est l'événement qui remplace le produit, vous voyez.
Tout à fait.
Mais il faut que le produit se batte parce qu'un produit qui dure, c'est un objet magnifique, qui prend la valeur.
Justement,
vous voyez,
on se bat bien parce qu'on explique que c'est un objet de transmission, etc. Ce qui est la vérité.
Et ben voilà, c'est la vérité. Et donc, ça va faire progresser tout le monde. Et si vous voyez, donc l'économie, quand vous avez compris que la concurrence, si vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, c'est Federer.
D'accord.
Bon, pourquoi? Parce que moi, je vous conseille de regarder plusieurs choses. Federer, le génie de Federer, c'est que il a quitté Bâle, c'est un Suisse, pour aller défier Sampras, qui était l'humain mondial, aux États-Unis. Alors moi, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Vous tapez Federer Sampras.
D'accord.
Vous allez voir la première partie où Federer se prend un 6-3, 6-2, 6-1 par Sampras. Mais simplement, Sampras regarde Federer en disant « Oh, celui-là, attention. »
Ah ouais.
Et une des plus belles parties de tous les temps, c'est celle où Federer a battu Sampras. Et là, c'est une partie qui est absolument splendide. Et Sampras, il est presque heureux parce qu'il a dit, voilà mon successeur et je suis fier de mon successeur. Et Federer est remarquable parce que il faut que vous tapiez Federer Wimbledon 2016. Il a été battu par Djokovic après avoir eu 2 balles de match. Je vous assure, il est admiratif et dit, vous savez, je viens de perdre, mais sans Joko et sans Nadal, on serait pas monté jusque là. Et finalement, on a monté le tennis à un niveau très élevé. C'est le plus important à comprendre. Parce que la concurrence est très mal vue. Hein, vous savez, tout le monde dit, c'est le fort qui tue le faible. Pas du tout. La concurrence, c'est ce qui fait grandir tout le monde. Alors si Pauline, grâce à ces émissions,
c'est
on arrive
vous...
à faire avancer...
Je vous remercie d'avoir dit ça, Xavier, parce que je pense que c'est très important. Et c'est vrai que les gens souffrent souvent de la concurrence. Et quand on le voit positivement... Et là, les exemples que vous nous avez donnés, en fait, finalement, on peut avoir de l'admiration pour ces concurrents.
Bien sûr. Et moi, j'ai une petite histoire qui est un peu longue, mais vous la couperez si vous voulez. Mais à un moment donné, si vous voulez, j'avais un grand concurrent qui était Hoya. Hein. Et en fait, Hoya, donc Sato, le patron d'Hoya, avait été nommé pratiquement en même temps que moi en 90 comme patron de. Et on s'est battu pendant 25 ans. Et on lui avait fait un coup terrible quand on a fait la JV avec Nikon en 2000, puisqu'on s'est allié avec son pire concurrent au Japon. Vous voyez, c'était vraiment le coup terrible. Et j'avais fait l'aller-retour au Japon pour le prévenir une semaine avant l'acquisition qu'on l'achetait, de façon à établir un respect entre nous. Et il m'a été très, très reconnaissant. Et alors un jour, c'était en 2000, j'ai plus 2010, j'étais au Japon pour les budgets de Nikon et Sylor. Il y a un coup de téléphone chez Nikon et Sylor. Sato voulait vous dîner avec vous. Alors là, je suis paniqué. Et je suis sûr qu'il va m'annoncer que Hoya achète Zeiss. On va au restaurant.
Qui est l'un des troisièmes concurrents Zeiss.
Voilà, c'est le troisième concurrent. Il y a Essilor, Hoya et Zeiss. Donc si Hoya rachetait Zeiss, en gros 15 ans de boulot étaient passés puisqu'il revenait à la taille d'Essilor. Hein, Et alors, on avait creusé l'écart déjà. Mais il revenait. Alors moi j'étais sûr qu'il allait... Alors j'y vais avec un ami donc qui était témoin. Parce que quand deux patrons de boîte de côté se rendent compte, il faut qu'il y ait un témoin. Pour qu'on a, tout ça a été écrit. Hein, bon. Et puis alors au milieu du repas, Sato me dit, écoutez, j'ai un truc important à vous dire. Alors je m'enfonce dans mon siège. Il me dit, le seul qui sait, c'est Suzuki, le propriétaire de Hoya. Je m'enfonce encore plus. Fontanet, je pars à la retraite.
Oh.
Alors là...
Vous lui avez sauté dans les bras.
Non. Et il me dit, Fontanet, depuis 20 ans, je vous suis tous les jours à la trace. Je sais où vous êtes. Et tous les matins, je me lève en disant, je casse Essie Laure et je coule Fontanay. Mais je tenais à vous dire, je me sens plus proche de vous que de la plupart de mes amis, même japonais. Alors là, le père Fontaine, il fout en larmes. Mmh. Et le père Sato fout en larmes. On était dans un grand restaurant, tous les gens, qu'est-ce que c'est que ces mecs qui pleurent? Bon. Alors là, je laisse passer une minute. Et je lui dis, Sato, je vais vous dire un truc que j'ai dit à personne. Et vous êtes le premier à qui je le dis. Sans vous, on n'aurait pas fait ici. Sans les batailles continuelles, dans tous les continents, sur tous les produits, sur tous les pays, sans ça, on n'aurait pas monté ici, l'or là où c'était. Et alors, je me rappelle, quand je suis parti, les gens d'Essilor, qui sont des gens très joyeux, m'ont fait un coup, ils ont invité Sato. Et donc, Sato a fait mon speech au départ. Et alors, à ce moment-là, je vous assure que c'est vrai, il y avait 1000 personnes dans la salle, ils sont tous levés. Je vous assure, ils ont fait une ovation à Sato.
C'est incroyable.
Je vous assure, ça a duré 5 minutes. Parce que 5 minutes, c'est très très long.
Ouais.
Sato pleurait. Il m'a dit, bon, Fontanet, j'ai jamais été félicité comme ça toute ma vie. Et le gars, il était en larmes.
C'est incroyable.
Et ça, si vous voulez, moi, j'ai une petite larme qui arrive. C'est, si vous voulez, c'est le truc peut-être le plus important à faire passer aux petits Français. Parce qu'on est très dégourdis, si vous voulez. On n'a pas à avoir peur du monde entier. On est tout à fait capable de faire des leaders mondiaux partout. Mais simplement, il faut comprendre l'économie. Et surtout, il faut comprendre la concurrence. La concurrence, c'est un magnifique mécanisme qui a été mis dans, qui nous a été confié. Et c'est le ressort de l'économie, en fait, la concurrence. C'est ça qui fait progresser, vous voyez. Alors, c'est de l'humilité, parce qu'on est tout le temps comparé à un autre. C'est généreux, parce que ça fait baisser les prix. Vous voyez. Et puis, quand...
C'est le moyen de sortir de sa zone de confort en permanence,
bien
quoi,
sûr,
tout simplement.
Hein. Et puis, alors, si vous voulez, quand vous avez, comme nous, moi, j'ai toujours connu des clients fidèles, vous voyez. Quand vous avez des clients fidèles, alors qu'ils peuvent vous quitter à cause de la concurrence, mais qui restent fidèles, ils défendent leurs intérêts, ben c'est le bien commun.
Mm.
La concurrence et la fidélité en business fait converger nos activités vers le bien commun. Donc, dès qu'on a compris ça, l'économie, c'est tellement beau que j'ai envie de pleurer. C'est sublime, l'économie. Vous voyez, et c'est pour ça que, si vous voulez, il faut expliquer comme j'explique, parce que dès qu'on a compris ça, on voit le business de façon différente. Mm, vous voyez.
Totalement.
Et ça, c'est vraiment philosophique. Et donc, il y a un travail gigantesque à faire. Et c'est très, très bien de... Moi, c'est ma retraite qui passe ça. Et c'est très bien, vous avez tout de suite pigé ça, parce qu'on fait passer ces idées. Vous voyez. Mais on n'est pas encore au...
On n'est pas encore au point numéro 4. Mais là-dessus,
j'ai... On a fait trois marches maintenant.
On a,
on a monté la montagne.
Mais attendez, avant qu'on arrive à la quatrième marche, moi, j'ai quand même une question pour vous, parce que...
Oui.
Quand on parle de cette concurrence qui ne s'arrête jamais, et c'est pour le mieux parce que c'est elle qui nous tire vers le
bien
haut,
sûr.
Et ça, vous nous avez fait changer de paradigme.
Vous avez compris, oui.
Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même des moments dans ces 23 ans ou 24 ans de carrière chez Essie Laure, où un moment où vous dites « je suis fatiguée ». Comment est-ce que vous gardez la motivation, l'entrain, l'énergie qui est la vôtre, qui fait qu'en permanence, vous arrivez à vous dépasser? Ben, parce que la concurrence, à chaque fois, elle vous refait le coup.
Oui, mais
et à chaque fois,
c'est usant. C'est passionnant. Je veux dire, j'ai pas vu le temps passer.
Je n'ai pas posé la question.
Je me suis jamais posé la question. Je vais vous dire un truc plus important. Il y a pratiquement le cinéma. Vous voyez, je suis pas fanat. Je m'amusais plus chez Essie Laure qu'au cinéma. Le seul film que je trouve au niveau de ce qu'on a vécu, c'est Gladiator.
J'adore.
Voilà, ça c'est un film. Vous voyez, alors bon, il est violent et tout ça. Bon, nous, on n'était pas à ce
le
niveau-là.
Le leadership exceptionnel.
Hein, bon, mais vous voyez, c'était cette lutte entre commode et bon. Et donc ça, si vous voulez. Et donc moi, j'ai toujours vécu ça comme un jeu absolument passionnant. Alors bon, j'ai des équipes absolument extraordinaires, mais donc à qui j'enseignais la stratégie. Donc dès que les équipes ont compris la stratégie, mais vous savez, j'allais jusqu'à expliquer la stratégie aux ouvriers, parce que l'ouvrier il travaille mieux quand on lui explique dans quel environnement il travaille. Vous voyez, quand il a fallu faire un gros effort pour financer les US, on a demandé aux ouvriers dans les usines européennes, mais ils savaient qu'ils protégeaient l'entreprise parce que l'excellence de leur boulot faisait qu'il y avait de bons résultats en Europe. On balançait le fric aux US pour conquérir les US et ils savaient que si on devenait leader mondial, les boulots qu'ils avaient étaient plus solides. Alors que normalement, toute la CGT, tous ces gens-là, dès qu'on met une usine à côté, ils disent « Ah, c'est mauvais pour mon boulot ». Mais je dis pas du tout. On met l'usine au Japon et c'est cette usine qui va vous protéger parce qu'on va concurrencer les Japonais. Donc quand les ouvriers ont compris ça, vous changez absolument tout. Et bon, c'est ce que faisait Napoléon. Là, dans les livres à lire, je vous conseillerais des trucs, mais Napoléon, c'est un type qui a des côtés absolument épouvantables, mais il a aussi des côtés géniaux, si vous voulez. Et en fait, il avait très bien compris que les Français sont très intelligents, et pour un Français travail, il faut qu'il comprenne la perspective. Dès qu'il a compris la perspective, il est exceptionnel.
Ça, c'est très vrai.
Et Napoléon, il allait expliquer les stratégies du lendemain aux soldats. Alors, je vous conseille d'aller voir un film qui est l'Austerlitz d'Abel Gance. Et vous voyez, Napoléon explique, et les soldats disent, « Empereur, tu nous as pris pour des grandes personnes, te fais pas de soucis, demain on sera au boulot. » Et on a compris comment on va jouer. Et vous savez que le grand adversaire conceptuel de Napoléon, c'est Clausewitz, qui était donc qui était pas du tout opérationnel comme Napoléon, puisque Clausewitz, qui se mettait à 25 kilomètres, ouais, hein, il était philosophe. On lui envoyait les plans de bataille, il donnait les ordres, mais il touchait pas les balles. Alors que Napoléon prenait les balles. Hein, bon, et il a dit après, à la fin de sa vie, vous savez, en fait, c'est Napoléon qui avait raison. Les Français sont meilleurs que les Prussiens parce qu'ils s'approprient la bataille. Alors que nos soldats, mieux équipés et plus nombreux, ne font qu'obéir au chef. Vous voyez?
Mais pour ça, il faut comprendre pourquoi on fait les choses.
D'où la pédagogie. Et il faut que la pédagogie aille à tout le monde. Je dis que, moi, je passais beaucoup de temps avec les syndicats à leur expliquer. Parce que quand les ouvriers ont compris, vous changez absolument tout. Et donc, la pédagogie, et c'est pour ça que mon travail consiste à rendre les choses extrêmement simples pour que tout le monde comprenne. Et ça va être très intéressant de voir si les gens comprennent ce qu'on raconte. Parce que là, je voulais dire, ça c'est du, c'est la première fois que je le fais sans graphique.
Ouais. Mais vous l'expliquez très bien.
Je pense que c'est un bon exercice.
Mais vous nous direz, chers auditeurs, si jamais c'est clair pour vous.
Et en quoi on peut améliorer, bien sûr.
Alors, quatrième point, le portefeuille stratégique.
Voilà. Alors, on arrive, si vous voulez. Hein, alors, écoutez, vous avez compris que le but, c'est, je vais essayer de vous faire goûter ce monde merveilleux de la stratégie, hein. Et donc, c'est une montagne. On a fait, il y a quatre moments durs, hein. La courbe d'expérience, il y a ensuite la finance, il y a ensuite le concept de cycle de vie. Et le concept de portefeuille stratégique, on fait la synthèse de tous ces éléments, hein. Parce qu'il y a deux grandes dimensions, dans la stratégie. Finalement, il y a la part de marché. Hein, si vous êtes leader, vous gagnez. Si vous êtes suiveur, vous perdez de l'argent. Hein, donc, faut chercher être leader. Donc, il faut savoir comment on est positionné en part de marché. Et puis, la deuxième dimension, c'est où j'en suis dans mon cycle de vie. Est-ce que j'ai de la croissance très rapide? Est-ce que c'est plateau? Est-ce que ça descend? Vous avez compris. Mm-hmm. Parce que, donc, ça va être tout le coup d'œil stratégique. Et donc, c'est le portefeuille. Alors, donc, c'est ce qu'on appelle le portefeuille stratégique. Vous avez deux dimensions. La croissance, la part de marché. Alors, elle est forte ou faible? Ça fait quatre cases. Hein. Alors, le cas idéal, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'étoile. C'est vous êtes leader d'un marché qui croît.
Ouais.
Hein? Quand le marché va tomber, vous devenez vache à lait. D'accord? Bon. Si vous avez loupé votre coup, quand le marché croit pas, vous êtes poids mort. Hein? Vous êtes dominé. Et le marché croit plus, donc il y a plus grand chose. Et puis, la quatrième situation qu'on appelle le dilemme. Je suis suiveur et je suis dans un marché qui croît à toute vitesse. Donc, non seulement je perds de l'argent, mais je suis obligé de mettre de l'argent tous les ans pour continuer à croître, vous voyez. Donc, les vaches à lait, c'est extrêmement solide parce que c'est rentable et le cash sort. Comprenez? Les étoiles et les pois morts. Bon, les étoiles, c'est très rentable, mais il y a beaucoup d'investissements, donc il n'y a pas de cash. Le pois mort, il n'y a pas de résultat, mais pas d'investissement, il n'y a pas de cash. Et le dilemme, il y a des pertes et beaucoup d'investissements, donc ça mange du cash, vous voyez. Donc, c'est très important quand vous avez une société de savoir où vous êtes. Vous voyez? Et si vous avez plusieurs activités, de dire, ben, j'ai une vache à lait, une étoile et deux pois morts, vous voyez? Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, coup d'œil stratégique, on sait tout de suite comment allouer l'argent, hein. Donc, ce portefeuille stratégique est un outil extrêmement important, et c'est celui qui vous donne le coup d'œil stratégique. Et si vous voulez, il faut le faire pour tous les concurrents.
Et on est d'accord, ouais. Xavier, quand vous dites ça, que je prends un exemple, vous parliez d'un restaurateur tout à l'heure. On va pas dire qu'il est leader forcément du monde de la restauration. Non. Ah non. Il est leader
dans
en fait
son métier,
dans sa
zone.
C'est
la bonne brasserie.
Voilà.
La bonne brasserie qui fait un truc à 25 euros, ouais. Un repas à 32 euros.
Bon, je veux dire, voilà. Chacun met à son échelle.
À son
en fait.
Échelle et son concurrent. Attention, hein. Le seul concurrent, c'est le gars qui est dans sa rue. Hein.
Bien sûr.
Alors après, évidemment, ça peut s'étendre à la ville. C'est-à-dire que sur la longue durée, si le type fait un tabac, il va peut-être acheter un petit restaurant.
Il peut changer, finalement, c'est comme s'il changeait de table au poker, quoi. Il est à la première table.
Oui, alors il va garder, il utilise le cash qu'il tire, il se met une deuxième table.
Voilà.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies de nénuphars. Hein. Les stratégies de nénuphars, c'est quand vous avez des métiers de service qui sont locaux, vous vous développez, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné les leaderships quelque part, il y a du cash qui sort et vous pouvez tenter votre chance une deuxième place.
Et malheureusement, et vous redémarrez en bas à la table.
Oui, alors à ce moment-là, mais vous avez le savoir-faire, donc vous devenez leader du deuxième, et à ce moment-là, vous en faites un troisième, et à ce moment-là, vous créez une boule de neige. Donc c'est comme ça que même si votre métier est local, vous pouvez commencer par des stratégies de nénuphars à commencer à mettre des petites pièces partout, et c'est comme ça qu'on voit dans le service des entreprises qui croissent beaucoup, même si le métier est local, mais elles commencent à prendre les régions.
Ouais,
vous voyez,
ouais.
Donc il y a toutes ces dimensions de stratégie.
Alors, j'ai une question pour vous, Xavier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui, moi, m'envoient souvent des messages pour me dire, mais je n'arrive pas à savoir qui sont réellement mes concurrents.
Ah oui.
Parce qu'en fait, par exemple, je suis photographe, ou je suis joaillère, ou j'ai une petite marque de mode, j'ai lancé il y a pas très longtemps. finalement, je peux être en concurrence avec H&M, je peux être en concurrence avec LVMH. Donc, en fait, ils mélangent.
On mélange beaucoup
de choses.
Alors, c'est là qu'il faut, alors, bon, ben, vous lisez dans ma tête parce que c'est là que il faut d'abord comprendre la grande idée, c'est la concurrence entre métiers et la concurrence dans le métier, hein. Si vous êtes dans les bijoux, ben, vous êtes évidemment en concurrence avec le week-end à Venise. Hein, bon, ça va coûter le même prix qu'un bijou, peut-être plus. Bon, donc ça, c'est des concurrences entre métiers.
Ouais,
d'accord.
Indirect.
Et puis dans le métier, il y a les gens qui font les bijoux proches de vôtres. Alors, je pense que dans les bijoux, si vous voyez, il y a toute une échelle de bijoux. Hein, il y a différentes familles. Donc, il faut que vous sachiez dans quelle famille vous vous battez.
Mais c'est ça. Donc, en fait, bon, il faut qualifier quand même sa concurrence.
Qualifier quand même. Alors, c'est ce qu'on appelle la segmentation. Et là, ça mérite vraiment peut-être une explication plus longue, mais vous allez expliquer. Vous savez très bien. Alors, le concurrent, c'est celui qui vous pille des clients. Hein. C'est les bijoux.
Est-ce que c'est celui, en fait, on en entend tout le temps parler, quoi. Finalement, on sait qui c'est, parce que moi, je sais que mes clients, ils me disent, ah bah, j'ai été chez vous, j'ai été chez l'autre personne.
Alors, c'est le client. Vous discutez avec le client. Oui. Alors, c'est très, très bien, Pauline, parce que un des éléments clés de la stratégie, on a maintenant les quatre pierres angulaires conceptuelles. Mm-hmm. D'accord? Après, le plus important, c'est l'info. Et donc, en fait, les grands stratèges, c'est des gens qui adorent l'info. Parce que si vous mettez un bon raisonnement sur une donnée fausse, ouais, c'est une catastrophe. Ouais. Donc, ce qui est difficile, c'est le bon raisonnement et la bonne donnée. Et donc, en fait, la stratégie, le temps de collecte de l'info, il est absolument clé. Et alors, il faut vous-même passer du temps, il faut pousser tous vos collaborateurs à avoir la passion de la collecte d'info, parce que c'est vous transformez votre équipe en quelqu'un qui apprend des autres.
Et est-ce que l'info, c'est aussi beaucoup du terrain ?
Ah ben, des terrains. Alors, à la fois, maintenant, vous avez... Bon, au début, quand j'étais jeune consultant, c'est très dur d'avoir les bilans des concurrents. Alors, maintenant, vous amusez sur... Vous les avez tout de suite. Donc, il faut évidemment avoir tous les courants. Il faut avoir tous les bilans de ses concurrents et les comprendre. Il faut déjà comprendre la politique financière. Hein. Donc, vous savoir s'ils s'endettent, s'ils payent du dividende. Vous voyez, ça, c'est capital. Hein. Mmh. Bon. Après, il faut savoir s'ils sont dans un conglomérat, comment sont les boîtes autour d'eux. Est-ce qu'ils peuvent recevoir de l'argent de leur groupe ou est-ce qu'au contraire, on leur tire dessus? Vous voyez? Par exemple, Jeannot, qu'on a battu, c'est pas tellement la faute du PDG, c'est qu'il était filiale d'une boîte américaine qui piquait du fric. Hmm. Donc, il était contraint de donner son dividende. Alors, tout le monde disait, mais attendez, boîte américaine, on va être écrasé. Mais pas du tout. Il était pompé par le conglomérat. Tout le monde se trompait. Donc, il faut à la fois avoir la bonne connaissance des finances et il faut savoir dans quel environnement concurrentiel se trouve
donc
votre concurrent.
Pour ça, si on parle concrètement de petites boîtes, faut un peu essayer d'aller fouiner,
alors,
choper
après,
de l'info.
Après, il y a un truc extraordinaire, c'est la presse locale.
C'est vrai.
Il faut décortiquer toute la presse locale. Et alors aujourd'hui, je vous assure, c'est fabuleux ce qui se passe. Vous pouvez retrouver 20 ans d'articles. Alors vous prenez tous les articles déjà. Vous allez voir les petits discours d'inauguration d'une usine, le maire qui visite, le blablabla. Vous allez piquer toutes les informations sur les effectifs de l'entreprise.
Puis les gens parlent beaucoup.
Les gens parlent beaucoup. Faut flatter. Il faut flatter absolument, vous envoyez les gens, oh vous êtes géniaux,
vous les envoyez sur le podcast de Pauline Agneau et comme ça vous aurez quelques chiffres.
Voilà absolument, vous voyez, donc vous avez donc il faut apprendre à collecter. Et alors si vous voulez, c'est important aussi bien que les commerçants, les fournisseurs, les personnes qui font la finance, vous voyez, et donc une fois, c'est pour ça fait Pauline que apprendre la stratégie dans l'équipe, vous changez complètement la relation. Et moi ce que j'ai vécu, si vous voulez, c'est que je crois avoir beaucoup pensé à la confiance, si vous voulez. Et qu'est-ce qui fait que je crois que, bon, là où j'ai toujours travaillé, j'ai su donner cette espèce de climat de confiance, c'est parce qu'il y avait une bonne stratégie. Parce que quand
et qu'elle était expliquée.
Et bien expliquée. Et quand il y a une bonne stratégie, que les gens s'approprient, hein, c'est ce que disait Clausewitz, quand ils se l'approprient, vous changez toute l'ambiance, je peux vous dire que tous les problèmes se règlent. Il n'y a pas de problème. Parce que les gens, ils comprennent la grande stratégie. Et à ce moment-là, le niveau de toutes les discussions, il change complètement. Mmh. Et moi, ça a été ma technique. Mais même, vous savez, dans les jeunes ventures qu'on faisait, par exemple, je me rappelle en Corée, c'était extraordinaire. On a réussi à se marier avec une très, très belle société coréenne. Alors, Pauline, je vous assure que c'est vrai. Je donnais, à chaque fois que je venais, tous les ans, pour les budgets, on mettait tout le monde dans la salle. Et je faisais, avec les Coréens, l'exercice que je viens de faire. Alors, je me rappelle, on faisait venir les secrétaires, hein. Même les personnes qui balayaient, ils venaient. Et je me rappelle, c'est extraordinaire, toutes les femmes s'habillaient, elles mettaient des jolies petites tenues, mais extraordinaires, parce que elles sentaient qu'un truc se passait. Et vraiment, ils ont compris, et le City Lee, qui était vraiment le proprio, qui était un grand business homme d'affaires, m'a dit, mais Xavier, votre truc, c'est extraordinaire. On a complètement changé la boîte, vous voyez. Et donc, moi, je suis très sensible à expliquer la stratégie.
Mais ce que vous dites est très important, je pense, et je le souligne même pour des dirigeants de petites entreprises.
Bien sûr, petite boîte,
parce qu'une fois de plus, j'en reviens à ma première question. Je pense que beaucoup de gens se disent la stratégie, c'est pas pour moi. Mais en fait, il y a cette notion de fédération autour.
Interne.
Bah voilà.
Et puis, alors, si vous êtes une petite boîte, vous avez des petits concurrents. Si vous avez une grosse société, vous avez des gros concurrents. Mais le rapport, c'est le même. Et moi, j'ai pas vécu de différence, hein. Moi, j'ai connu le BCG, on était 5, 6. Donc, on a connu toute petite boîte. Alors, on luttait à l'époque contre McKinsey, c'était 70 ou une centaine. Donc, c'était la petite contre le gros. Donc, on avait des stratégies du petit contre le gros.
Ah, mais bien sûr.
Et puis, après, ça change complètement quand vous êtes leader, vous. Et donc,
Mais d'ailleurs, ça aide d'avoir de la concurrence. Moi, je me rappelle au début de notre aventure, on avait eu très peur à un moment donné. Je crois que j'ai jamais raconté cette anecdote. Quand une boîte allemande avait levé 100 millions, ce qui pour nous était énorme.
Monstrueux, mais bien sûr.
Voilà. Et en fait, c'était lancé exactement sur la même chose que nous, copié. Ils nous avaient copié, copié de A à Z. Et au début, moi, j'ai pris peur. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait nous forcer exactement ce que vous disiez, à innover, améliorer, à faire les choses différemment.
Et c'était votre IA.
Ça a été notre sato. Et ben, je peux vous dire qu'au bout de 3 ans, ils se sont plantés. Ben, ils ont cramé de l'argent dans tous les
ils
sens.
Ils ont cramé du fric parce qu'effectivement, ils étaient en bas de la courbe d'expérience. C'est pas l'argent qui a acheté ça. Alors après, si vous voulez, la descente de la courbe d'expérience, c'est pas simple non plus. Ça demande bien connaître son métier, ça demande des inventions, ça demande, vous voyez, c'est pas simple de descendre la courbe, d'améliorer les produits, vente. C'est un travail continuel. Donc c'est là qu'est la vraie bataille, hein. Il faut pas croire que c'est uniquement la finance qui va vous aider.
Non.
C'est vous qui nourrissez, la descente de la courbe d'expérience, de toute la créativité, de, très important, surtout dans les produits comme le vôtre, la créativité est clé.
Oui, et puis sur le marketing, sur l'expérience.
Vous parlez, tous les mots utilisés, tout est important, Et ça s'achète pas, on n'achète pas ça. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. Le petit peut battre le gros parce que le talent, ça s'achète pas.
C'est talent, ça se construit. C'est du boulot aussi.
Et le boulot. Le boulot, ça, faut aimer le boulot.
Faut aimer le boulot.
Si vous voulez, quand vous avez fait la stratégie, ça transfigure le boulot.
Ouais.
Le boulot est plus pareil. Et alors c'est pour ça que je refuse qu'on barre le travail. Vous voyez, j'ai toujours lancé l'idée de travail. Moi, je parle de métier de champion. Et alors moi, je disais non, travail, c'est bon pour. Il y a eu du travail il y a 100 ans, mais aujourd'hui on a un métier. Alors, vous voyez, c'est différent, le métier. C'est tout un ensemble de savoir-faire. C'est là qu'il y a un effet d'expérience. Ça se transmet. Ça évolue par l'invention. C'est ça, le métier. Donc, c'est magnifique. Et là, moi, je dis, il faut être champion du monde.
Puis, il faut que ça soit un jeu.
Travail, métier.
Il faut que ça soit un jeu, comme vous disiez. Il faut qu'on s'amuse, quoi.
On est champion. Mmh. On est sur Wimbledon, vous voyez. Et alors, il faut devenir champion. Alors, moi, la thèse que j'avais, on parle des Silors, c'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma vie de travail. Toute personne a un génie. Vous voyez, Pauline, vous avez un génie. Si, vous avez un petit génie.
Sans doute.
Il y a des tas de trucs que vous savez pas faire.
Oui, ça, c'est clair.
Des trucs que vous savez faire. Bon. Alors, dans votre domaine, faut être champion du monde. Vous voyez. Et moi, je disais, par exemple, j'avais une assistante absolument extraordinaire, Marie-Laurence. C'était une fille qui avait assez peu d'études, qui était vraiment géniale. Et je lui dis, Marie-Laurence, vous êtes championne du monde des assistants de PDG. Vous voyez. Et j'ai vu cette femme grandir intellectuellement. À la fin, je lui demandais de faire les comptes rendus des comités exécutifs. Elle avait un talent de la simplification et des mots. Et donc, elle était capable de vous rédiger une synthèse en 10 lignes de tout ce qui était important. Tout y était.
Et vous, votre rôle de dirigeant, c'était d'identifier dans quel domaine les personnes autour de vous allaient être championnes.
Alors,
du monde.
Si vous voulez, le RH est très important. Le grand truc important, c'est confiance et stratégie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la stratégie aide beaucoup à la confiance, et puis la confiance améliore la stratégie, parce que quand vous luttez, il faut être bien dans sa peau. Federer, il y a les journées où il a très confiance dans son coup droit, il est imbattable. Si à un moment donné il est un peu mal, etc., il se fait battre, vous voyez. Donc il faut aussi, pour être performant, faut avoir confiance en soi. C'est pas l'arrogance c'est infernal, faut pas se flageller. Vous voyez, il y a une limite entre l'arrogance et la flagellation. Vous voyez ce que je veux dire par flagellation. Et donc, cette fine ligne, c'est ça qui permet. Il faut être dessus. Vous voyez.
Mais savoir où on va aide aussi à avoir de la confiance.
Alors, savoir où on va. Et puis après, chacun est différent. Vous voyez, vous avez des gens qui sont, par exemple, des très grands chercheurs. Ça, c'est des gens qui ont parfois besoin d'avoir un peu de liberté, de pouvoir flâner, traîner, etc. Les gens de production, c'est des gens qui sont assez précis, très, très opérationnels. Les commerçants, c'est très différent. Les commerçants, c'est des gens très ouverts, etc. Tous les gens, les informaticiens, c'est un monde différent. Tout le monde de la logistique, des gens qui adorent les chiffres. C'est pas des matheux, ils aiment les chiffres. Les juristes, vous voyez. Et donc, en fait, il y a un panel de talents, et chacun, je pense, on a tous des visages différents, on a tous un domaine dans lequel on excelle. Et moi, j'ai toujours dit, quel que soit votre job, vous avez les gens d'œil en face, vous devez être champion du monde dans votre job. C'est vrai pour les ouvriers. Vous devez être meilleur sur les machines-outils très compliquées qui font les verres que les ouvriers d'Oya au Japon, vous devez être meilleur. Et vous pouvez l'être. Il n'y a pas de raison. Hein? Vous voyez? Mmh. Même chose pour les Coréens. Et donc, en fait, c'est ça qui est fabuleux dans la, dans l'entreprise mondiale, c'est que ça transfigure le travail. Vous voyez? Alors après, évidemment, le fin du fin, c'est que quand les gens sont conscients qu'ils créent un leader mondial, vous voyez, vous rajoutez une couche de plus. C'est presque comme la cathédrale de Chartres, vous voyez?
Oui, ils savent qu'ils sont en train de construire quelque chose de grand.
Et ça, Napoléon était très fort. Napoléon disait, oui, Austerlitz, j'en étais. Vous voyez? J'en étais. Austerlitz, on en parle encore 300 ans après, vous voyez? Ou 200 ans après. Et donc, ça, c'est l'élément. Et ça, la stratégie vous le permet. Parce que vous prenez n'importe quel truc et moi, je sais, je raconte des histoires assez marrantes. Sur Benetto, par exemple, on a réussi, quand j'étais encore tout jeune, mais tout jeune DG, et on a réussi à attaquer les États-Unis en vendant des bateaux aux plus grosses flottes de location. Et là, je vous assure que quand on a pris la grosse commande du numéro 1 des flottes américaines, qui était numéro 1 mondial, qu'il est passé de l'américain à nous, Benetto, j'ai dit, Mamrou, là, on vient de faire péter tout le système. C'est un moment donné où toute l'industrie bascule. Vous voyez, et vous le sentez. Et à ce moment-là, je peux vous dire que on a raconté l'histoire aux ouvriers, et je peux vous dire que quand ils faisaient les bateaux,
ils faisaient vous avez raconté l'histoire aux
ouvriers. Oui, parce qu'on expliquait aux ouvriers pourquoi cette commande était capitale, et cette commande faisait basculer toute l'industrie. Et donc, avec ma maman, on avait réuni les ouvriers à Noël, et j'avais fait un grand exposé de stratégie avec tout le monde. Et ça, c'est là où la stratégie devient absolument passionnante et si tous les petits Français pouvaient comprendre ça, ben je veux dire le pays irait mieux, hein, parce qu'on entend quand même beaucoup de bêtises. Alors c'est là où, si vous voulez, Milton Friedman à la fois est un génie mais a fait du mal. Alors Milton Friedman, c'est l'économiste américain qui a dit l'entreprise est là pour faire du profit.
Pas l'inventeur du libéralisme.
Voilà. Mais... alors le mot libéralisme, vous avez compris qu'il est quand même détruit. Et alors moi, si vous voulez. Bien sûr, l'entreprise peut pas perdre d'argent, mais l'entreprise, à la base, elle rend un service. Elle rend un service. Et quand elle travaille bien, sa raison d'être, c'est le service qu'elle rend. Et il faut qu'elle fasse le meilleur service, vous voyez? Et l'entreprise, en fait, elle a pas pour but de faire du fric. C'est un moyen de faire de l'argent qui lui permet de croître. Mais l'entreprise, la raison d'être, c'est de donner un service que
c'est
les gens
utile.
Achètent librement.
Ouais, ouais.
Avec leur argent à eux, en concurrence, vous voyez. Et donc ça, c'est l'élément très important à expliquer. La raison d'être, c'est pas... Et donc moi, je suis pas du tout séduit par toutes ces histoires de raison d'être. Je dis, faites bien votre boulot. Le fait d'exister déjà, c'est une preuve de raison d'être. Hein. Et la concurrence fait que c'est l'intérêt général.
Avoir des clients, c'est une
avoir
raison
des
d'être.
Clients
qui acceptent de payer pour
et
votre service
et les
ou votre
fidèles,
produit.
Le client fidèle, alors qu'il y a une concurrence.
Ouais.
Alors, je vous assure que le truc le plus important que je passe toujours comme message, c'est que il faut toujours faire mieux que ce qu'attend le client. Parce qu'à ce moment-là, vous transformez le client en vendeur. Vous voyez? Et ça, c'est les gens de Nikon qui m'ont appelé ça au Japon. Quand on a fait la JV, j'étais très étonné, ils étaient très peu de commerçants. Et le chairman me dit, mais Monsieur Fontanet, vous voyez cet appareil Nikon? C'est une pure merveille. Si j'en mets un dans une ville, si 3-4 ans après, il y en a 50.
Il serait pas comme une traînée de poudre.
Et oui, parce que le client lui-même, il est tellement passionné par son truc, et il devient vendeur, et ça le rassure dans son achat de convertir un autre.
Bien sûr.
Donc, vous n'avez pas besoin d'équipe de vente. Et donc, allez dans l'excellence du produit. Vous voyez le truc?
Ouais.
Et ça, c'est le côté absolument fascinant du système concurrentiel. Et vous avez besoin du client, du concurrent, qui vous rappelle tout le temps l'ordre.
Bah ouais, c'est ça. Ouais, pour pas s'endormir.
Et voilà. Et donc, c'est Nadal et Federer. Voilà.
J'adore. Voilà. Xavier,
on
a fait un peu de chemin, mais on va parler livre.
Oui, alors, oui.
Moi, j'aimerais quand même votre bibliothèque idéale du bon stratège.
Alors,
en plus, je suis une grande lectrice, vous savez, et puis je sais que mon audience aussi, donc on va s'amuser.
Alors, je vais aller dans le désordre le plus complet.
C'est pas grave.
Ça va pas être des bouquins de management, d'accord? Des bouquins de culture générale. Hein. Parce que bon, si vous avez compris ça, alors je vais pas faire mes pubs pour mes émissions de télé, mais il y a une émission de télé, si vous voulez.
Allez-y,
il y a BFM Stratégie, hein. Regardez.
Cinquième année quand même que vous êtes prolongé.
Et regardez, je crois que c'est la 248. J'ai fait en une demi-heure, j'ai repris les quatre pierres angulaires. Alors, Pauline, je n'étais pas, c'était pas, il y avait des slides.
Oui.
Et à la dernière, il y a les 45 émissions.
C'était plus pro, mais moins sympa, je suis sûre.
Voilà, absolument. Non, mais là, l'exercice que vous me forcez à faire, il est génial, parce que si vous voulez, ça permet d'avancer dans la compréhension. Hein. Mmh. Mais là, si vous voulez, vous avez 45 émissions, donc vous tapez BFM 17, hein, vous tapez sur le truc et puis vous avez l'émission tout de suite. Hein.
D'accord. Bon.
Alors ça, vous pouvez utiliser ça.
Je mettrai le
mais
lien.
Mais mettez le lien. Alors par contre, je vais vous dire je vais vous dire dans le désordre les trucs qui sont très importants. Je pense que le premier livre que je conseille, c'est Du miracle en économie d'Alain Perfit. Mmh. Hein. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer par hasard Alain Perfit à l'époque où il écrivait son livre. Et Alain Perfit est un homme politique qui n'avait pas une très grande connaissance de l'entreprise. Et il m'a fait l'honneur de discuter 3-4 fois avec moi 1h30 quand il terminait son bouquin. Et il a mis une touche entreprise dedans. Mmh. Et donc, lui, c'est un livre sur le mystère de la confiance. Et alors, il décrit tout ce que je vous ai expliqué sur le lien entre conscience et stratégie. C'est sublimement expliqué. Donc là, moi, je crois que c'est le premier livre à... le livre le plus intéressant. Le deuxième livre à lire, c'est le livre de Jobs, Steve Jobs. Alors, il y a une dizaine de livres. Il faut lire celui de Isaacson.
Ouais, c'est ça.
Hein? Vous savez l'histoire, c'est mm-hmm. Jobs, en fait, donc, était en train de sentir que ses jours étaient comptés. Et il a demandé à Isaacson de raconter sa vie. Il a donné 34 personnes interviewées. Et le livre est absolument sublime. Parce que là, vous avez vraiment un livre sur un génie. Et là, vous voyez la concurrence entre métiers, la concurrence dans le métier, l'importance des personnes. Parce que la personne est absolument capitale. Hein. Et c'est là où il faut que chaque individu soit bien dans sa peau, parce que c'est avant tout une affaire de personnes, la stratégie. Hein. Mais c'est des personnes entre patrons, mais aussi dans l'entreprise. C'est ça que... Et Sato m'a dit, vous voyez, Xavier, on s'est vu après. On a regardé, il a dit, les historiens, ils étaient absolument incroyable. Et ça, c'est parce qu'ils étaient animés, vous voyez. Et donc, le livre de Steve Jobs, c'est la personne. Il va vous dire les 10 personnes qui ont compté. Hein. Il y en a un qui est très intéressant, c'est Plus intello, c'est Penser pour moi-même, de Marc Aurèle.
Ah oui.
Hein, vous connaissez.
Bien sûr.
Alors, Penser pour moi-même, faut lire rapidement, mais c'est surtout le début qu'il faut lire.
Après, il n'est pas trop difficile à lire.
Non, pas trop difficile. C'est toutes les personnes qui comptent dans votre vie, parce que la stratégie, c'est qu'une affaire de personnes, de rencontres et de hasard. Hein. Et donc, il faut être capable de juger les moments de bascule. Et moi, il y a quelques personnes qui, dans ma vie a basculé. Évidemment, mon épouse, évidemment. Mais dans le boulot, j'ai une dizaine de fois, ah, je dis ça y est, là, il y a un train qui passe. On le prend.
Vous pouvez me citer un exemple.
Il faut avoir le pif. Ben, si vous voyez, moi, je raconte l'histoire. La première, c'était Bruce Anderson. J'avais signé avec une grosse entreprise française. Et puis, la veille, dimanche soir, un copain m'appelle en disant, Xavier, qu'est-ce que tu fais? Oh, fais pas cette connerie. Pardonnez-moi. Et il y a Bruce qui est là demain. Et donc, tu viens au BCG. Alors, j'arrive dans un petit bureau. C'était un bureau de 6 mètres sur 4, rempli de caisses. C'était le premier bureau au BCG Paris, vous voyez. Il y avait quatre gars qui avaient travaillé à Boston, qui venaient ouvrir. Et puis, alors, coup de théâtre. Bruce Anderson était là. Il avait un rendez-vous avec Ambroise Roux, et puis Ambroise Roux annule 1 heure avant. On me dit, Xavier, c'est pas compliqué, tu déjeunes avec Bruce. Alors, le petit Fontanet, vous rendez compte, le grand PDG, il est en plus, il est massif. Bon. Et puis alors, un déjeuner absolument passionnant. On commence à discuter comme un fou. Et Bruce, on était en plus dans un petit bistrot. On avait une table ronde. Il avait pris une soupe. Et il renverse la soupe sur le pantalon. Le bon pantalon qu'il avait mis pour boire Ambroise Roux. Alors, il fait ça. Il continue à discuter. Je dis, monsieur Anderson, rentrez à votre hôtel, change. Non, pas du tout, je discute avec vous. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Alors, j'ai fait 2 interviews, j'avais signé le soir même. Mmh. Là, c'est la rencontre, vous voyez. La rencontre avec Beneteau est aussi une histoire complètement folle. Quand j'ai pris mon boulot, chez Sylor, vous vous rendez compte, j'étais chez Eurest et j'avais collé madame sur une décision qui me plaisait pas. Du conseil d'administration. Alors, j'étais patron de ligne de produits, j'étais pas au conseil.
On n'a pas parlé de courage aussi, mais...
Oui, alors oui, bien sûr. Alors oui, non, alors si vous voulez, c'est, je dirais que c'est le moment donné où il faut être capable de prendre. Donc je dis, écoutez, si
prendre
vous prenez cette décision,
plus que du courage.
Oui, écoutez, si vous prenez cette décision, je pars parce que je serai incapable de travailler. Mm. Bon, et puis ils la prennent, ben, je pars. Alors, ils me croient pas, mais je pars. J'avais pas d'autre job, hein. Mais je dis, je vais être incapable de travailler dans ces conditions. Donner le job à un autre. Moi, je peux pas. Je suis pas câblé. Puis alors, je continue à boulonner. Je dis, écoutez, je vous donne le temps de trouver le remplaçant. Hein, d'accord? Bon. Et, coup de théâtre, une semaine après, je prends l'avion pour aller chez Nestlé négocier des cantoches et je tombe à côté, Gérard Cottet, président des Sylor qui cherchait un DG de l'extérieur.
Ouais.
Il me dit, Xavier, vous avez un job? Vous voulez, chercher un patron? Ben, Gérard, ça tombe bien, je viens de démissionner. On est contre la vie?
Ouais, c'est fou.
La rencontre de Madame Rousse, c'est un de mes copains du BCG qui discutait avec son mari, qui était un gros quincaillier, qui était un grand vendeur de camping gaz. La discussion est dure tellement longtemps qu'il oublie son train. Et puis Monsieur Louis, Claude, l'invite à dîner le soir chez lui, et pour le mettre le lendemain au train, et il tombe sur Madame Rousse, jeune PDG des... Et puis, vous rendez compte du truc ? Tout est comme ça. Tout est comme ça. Et donc, il y a des moments donnés où vous êtes capable de bouger. Ça, tout le monde ne sait pas le faire. Hein. Et alors, c'est là il y a la notion de pif, vous voyez ? Le pif. Hein, ça, c'est important, ça. Donc, cultiver le pif. Hein. Et chacun là, vous savez, c'est une question d'éduquer, une question d'exemple et de jugement. Hein. Un jugement. Parce que le problème que vous avez, c'est que vous êtes, surtout quand vous êtes PDG, vous êtes submergé de nouvelles idées.
D'infos.
Et alors, il y en a un qui est très fort, que j'ai toujours admiré, c'est Dahl, qui était le fondateur de L'Oréal. Il avait une très jolie phrase, saisir ce qui commence. Vous voyez, vous voyez, c'est pas, c'est un truc nouveau qui va durer. C'est un commencement. Hein. Et ça, alors, c'est très, très important. Alors là, évidemment, plus vous avez de savoir-faire en stratégie, plus vous avez le pif. Vous voyez. Et moi, je sais que je continue à aider beaucoup de monde, mais je fais ça à titre amical et tout, parce qu'effectivement, la notion du pif, vous voyez, le coup d'œil, hein, très important. Alors ça, ça se cultive avec le temps. Hein. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes écoutent les vieux. Hein. Parce qu'il y a une catégorie de jeunes qui disent, les vieux, le monde est tellement différent que l'expérience, je les nommais pas par charité chrétienne, mais il y a beaucoup de gens qui éliminent les vieux et on verra qu'ils se trompent. Hein. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui écoutent les vieux. Hein.
Bon, moi, j'essaye de, alors, ouais. Je sais pas si je vous considère comme un vieux,
je dirais pas ça. Non, mais il faut l'harmonie entre les deux. Tout ce qu'on raconte est pas bon non plus. C'est à vous de faire le tri, si vous voulez. Mais c'est important d'avoir le... Alors, un truc très important à lire, vous voyez, on avait donc...
Donc, on avait pensé pour moi-même, là,
pour
à
moi-même.
L'instant.
Alors, moi, je crois que Braudel, très important de lire Braudel.
La Méditerranée.
Alors, il faut lire, oui, le grand, alors, il y a le très, très grand livre, c'est l'économie. C'est le livre sur l'économie, c'est la trilogie sur l'économie. Hein. Hein, vous avez le temps du monde. Donc, c'est la dialectique du capitalisme. Donc, il va vous expliquer. C'est très intéressant, le capitalisme, en fait, ça a commencé dès qu'il y a eu des villes. L'entreprise, elle a commencé quand il y a eu des villes. Hein, quand vous êtes à la campagne... Et c'est la ville qui a fait l'entreprise. Et les premières entreprises, si vous voulez, on les trouve, je pense que c'est le code d'Amourabi. C'est la première fois en Perse, à Persépolis, qu'on se rend compte qu'il y a des entreprises avec un chef d'entreprise qui met le capital et des employés. Vous voyez, une segmentation. Mmh. Puis après, tout ce concept a énormément évolué. Et alors, l'intérêt de Braudel, c'est qu'il vous donne la longue durée. Bon. Et il y a l'histoire du capitalisme de Braudel en trois, donc il y a il commence par le quotidien, donc il apprend à partir de n'importe quel objet, à voir toute l'histoire.
Ouais.
Vous savez, je prends un crayon, par exemple, oui, un crayon, c'est idiot. Hein, mais vous rendez compte, un crayon, tout ce qu'il y a dedans ? Vous avez vu les usines qui font les crayons ? Bon, vous avez Faber-Castell, vous savez combien ils font de crayons ? 4 milliards. Et vous avez vu les usines de Faber ? Tapez YouTube Faber-Castell, regardez les usines, c'est à pleurer de beauté. Vous rendez compte, il faut des bois. Les bois, on les trouve dans un seul pays. Les mines, un autre pays. Faut faire les mines. Vous savez que c'est usiné au nanomètre, hein. Au micron, hein. Il y a les colles, les peintures, vous voyez des trucs, hein.
Ouais.
Ben, c'est merveilleux. Alors, c'est tout petit truc. Vous rendez compte?
Qui a l'air de rien, on se pose pas la question.
Ouais. Et voilà. Et donc, dès que vous commencez à dire, mais ce crayon, c'est absurde. Mais on vit dans un monde phénoménal. Le truc le plus simple est magnifique. Vous voyez? C'est ça qu'il faut expliquer. Alors là, il y a un livre qui s'appelle The Pen, hein, qui est très intéressant.
The Pen,
le crayon. C'est un leader américain du crayon. Qui a fait un petit livre sur le crayon.
D'accord.
Alors, vous allez voir, c'est à pleurer, parce qu'il explique toute la complexité du crayon. Mmh. Hein. Alors, Braudel, je pense que c'est le plus lourd. Alors ça, c'est très, très lourd. Hein.
Bah, c'est assez gros de mémoire, Braudel, c'est quand même plutôt des...
C'est très gros, bah, c'est 3 fois 800 pages. Hein. Oui. Mais attendez, moi, je vous invite à...
Faut prévoir de prendre quelques jours, là, pour le lire.
Sur l'année, si vous voulez, une fois que vous avez ça, moi, je dirais Braudel, Hayek. Il faut quand même lire des livres de Jacques Welch.
Hein. Ah, j'adore.
Donc, Welch a été battu, si vous voulez. Alors, le truc, il faut les lire pour culture, parce que c'est la technique américaine, dans laquelle, moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé chez General Electric. Il a fait des process de management.
C'était le directeur général de General Electric.
Alors, il se trouve, moi, j'ai beaucoup d'amis parce qu'il a beaucoup travaillé au BCG au départ. Et donc, j'ai beaucoup de copains. il était quand il était jeune patron chez GE, il a beaucoup fait travailler BCG et il a piqué tous les copains du BCG. Donc j'ai beaucoup de copains qui ont fait leur carrière chez GE. Et donc j'ai pu suivre ses carrières. Alors il faut le lire, mais c'est, pour moi c'est une limite, si vous voulez, parce que le conglomérat qui était la force de GE, ben, des gens comme Apple ou Microsoft l'ont complètement écrasé. Hein, ça a été la plus grosse boîte du monde. Mais là, maintenant, ils sont, sont tombés à des mêmes, je crois que même Essilor, ça doit valoir plus que j'y, vous vous rendez compte, Donc, peut-être pas, hein, mais c'est tombé dans des boîtes à 100 milliards de capi, alors que maintenant, il y en a qui sont à 2000 ou 3000, hein. Et donc, il est très intéressant parce que c'est, il systématise le management, donc il y a des bonnes idées à prendre.
D'accord.
Donc c'est from the, alors celui qui est bien, c'est from the guts. From the guts. Faut le lire en anglais si on peut. Alors après, moi, je
Napoléon, pense... vous aviez quelque chose à me proposer sur Napoléon?
Ah oui, alors écoutez, il y a les campagnes d'Italie de Geoffrin. Bon, alors Geoffrin, c'est le directeur en chef de Libération, donc j'ai pas une admiration, et je sais pas tout à fait, mais simplement, c'est quelqu'un qui adore Napoléon. Et alors, le très beau Napoléon... Alors, vous avez le Napoléon de Gallo, qui est très beau.
Oui.
Hein? Bon, ça, c'est des livres de poche, mais il y en a, le Napoléon est toujours magnifique, c'est la campagne d'Italie. Et donc, vous prenez Napoléon, vous commencez par la prise de Toulon. Vous voyez? Et on voit le génie qui arrive. Et bon, il faut savoir que Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a pris le pouvoir en termes très financiers, c'est que il a refinancé la révolution qui claquait un fric fou en piquant le fric des Italiens. Hein. Et donc il est devenu l'homme indispensable parce qu'en fait il a amené tout le fric qui a permis de rembourser les dettes. Mais alors par contre, vous avez la description des batailles. Et alors là où le bouquin est absolument éblouissant, c'est que il suit les batailles, donc vous avez une carte, vous avez une photo de la bataille toutes les heures. Et il décrit tous les mouvements. Et quand vous lisez bien le bouquin, vous voyez à quel point il jouait bien. Et il lisait dans la tête de l'adversaire. Il lisait. Et donc, tous les mouvements, et vous verrez que, donc, il avait un système de renseignement, on parlait de l'info, un système de renseignement pour vraiment savoir où allait l'adversaire. Et là, on voit qu'il y avait un génie. Hein. Alors, le génie de Napoléon, si vous voulez, il a eu le pic jusqu'à Austerlitz. Puis après, il est vraiment tombé. Hein. Il y a eu toutes les bêtises, la guerre d'Espagne, la campagne de Russie. Alors là, le gros
problème... Il a perdu son discernement, quoi.
Oui, et puis alors, si vous voulez, il a pas changé les équipes. Tous ses maréchaux ont vieilli avec lui. Ouais. Et puis après, ben plus personne pouvait lui dire « tu développes ».
Peut-être qu'il avait plus assez de concurrence.
Oui, et puis c'est Wellington qui a... Alors Wellington, par contre, a appris de lui. Wellington a appris... Wellington, il était derrière la guerre d'Espagne. Il a commencé à comprendre les batailles. Et Wellington, évidemment, était aussi bon que Napoléon quand il a sur Waterloo. Alors, il a eu un coup de peau énorme, hein, Wellington, mais il était quand même... c'était la force montante. Et de toute façon, il l'aurait coincé un coup
à un moment donné. Hein.
Et donc, je pense que les batailles d'Italie de Geoffrin sont absolument passionnantes. Il y en a un, si vous êtes très... Là, ça demande d'être courageux. Je donne quand même le nom. C'est Droit, Législation, Liberté de Hayek. Hayek est détesté, mais quand même, c'est un vrai génie. Et... on est tous très abreuvés de Keynes, vous voyez, donc qui est l'anglais, l'économiste anglais qui explique que la dépense publique est ce qui stimule l'économie. Alors moi, je pense que c'est complètement faux aujourd'hui avec la mondialisation. Hein. Donc on a été abreuvés de Keynes, c'est ça qui a endetté le pays. Alors évidemment, Hayek, il est détesté parce que c'était l'adversaire de Keynes, évidemment, intellectuel de Keynes. Mais si vous êtes courageux, alors ça vous fera grimper d'un cran, c'est un peu dur, mais vous savez, j'ai vu beaucoup de gens qui sont passionnés, parce que là vous tombez au cœur quand même de derrière tout ça, il y a toute une conception de l'humanité.
Bah, c'est philosophie de.
C'est philosophie, hein, c'est la personnalité, le génie humain. Parce qu'on est dans une phase avec tous les Bourdieu et les Foucault, on dit qu'on est façonné par notre classe, etc. Et donc la personnalité n'existe plus. Mais à ce moment-là, c'est la fin de tout ça, vous comprenez? Et donc, évidemment, ils ont besoin de Keynes, de l'État qui fait tout marcher. Donc, tout ça, c'est une espèce de... Alors que les gens qui vous permettent de tout mettre en l'air, c'est Perfit, Braudel et Hayek. Et alors, évidemment, c'est un petit peu dur de lire Hayek, mais commencez déjà à lire ça.
Peut-être
puis, peut-être j'ai envie de dire conquérir le monde avec son équipe.
Bah, bien sûr, allez-y.
Je pense que vous allez voir. Ça,
qui est votre propre livre.
C'est
qui
le dernier
pour
livre.
Pour le coup, en plus, très facile
à lire.
Facile à lire, accessible, avec plein d'histoires, en fait,
Donc ça, vous pouvez lire ça.
Tout à fait.
Donc je pense qu'avec ça, vous en avez déjà beaucoup.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas des bouquins de management, hein.
Non.
Mais si vous voulez.
Je remarque que c'est plus des livres d'histoire et de philosophie.
Et de culture générale. C'est parce que, c'est ce que je disais tout le monde. Alors, c'était très drôle parce que j'achetais beaucoup de bouquins. Alors, vous savez, la boîte a comment explosé. Et donc, on avait donc, je sais plus, des centaines de filiales, hein. Et donc, il y avait tous les expats qui étaient en charge de leur pays. Donc, je pouvais pas toujours les voir. Mais alors, j'achetais les bouquins par centaines.
Vous les envoyez.
Non, j'achetais les bouquins par centaines. Donc, dans mon bureau, vous aviez 5 piles de bouquins. Et les expats, même si je les voyais par les réunions, ils venaient me voir. Et à ce moment-là, je disais, écoutez, prenez-moi celui-là. Alors moi, c'était génial, sympa. Parce que j'avais 5 minutes de discussion avec les expats qui me racontaient en deux coups leurs histoires. Donc, j'ai gardé le contact et puis je leur donnais des lectures en disant, vous êtes dans les avions, perdez pas votre temps et vous me lisez ça. Et donc, alors il y avait aussi tous les bouquins de Transponville que j'aimais énormément.
Vous savez que je l'ai eu sur le podcast.
Oui. Alors, si vous voulez, il y a le petit traité des grandes vertus. Pour mon avis, c'est le summum de ce qu'il a fait.
Magnifique.
Et ça, je le faisais beaucoup lire en Asie. Hein.
Très
je
bon.
Donnais alors aux Japonais, aux Coréens, ils ont tous. J'ai dû en acheter 500, peut-être 1000. J'ai donné à tous. Je faisais bouffer. Ils bouffaient tous du petit traité des grandes vertus. Il y a évidemment un truc sublime qu'a fait Ferry, c'est un DVD sur Kant.
Ah oui,
je vous emmène encore plus loin.
Allez-y. Kant,
moi je suis
pas toujours facile.
Je suis incapable de lire Kant.
qu'on soit
par
honnête.
Contre, le Kant de Comte-Sponville est sublime.
De Ferry, vous voulez dire.
De Ferry.
Ok.
Hein, et je pense que Petit traité des grandes vertus de Comte-Sponville et le Kant de Ferry, par exemple, moi j'ai fait lire à tous les Chinois qui voulaient comprendre les Français, j'ai dit écoutez, il faut que vous compreniez l'Europe. Vous comprenez ce qu'a été les Lumières. Donc il y a de l'autre côté c'était Voltaire qui est très français,
plus facile
à lire et assez humoristique. Mais si vous voulez vraiment aller au fond des choses, décortiquer, alors pas Kant parce que vous serez incapable de comprendre, mais le Kant de Ferry, parce
d'accord.
que Ferry a passé 6 ans en Allemagne et il a décortiqué tant.
D'accord.
Et donc il est absolument génial.
Bon.
Et donc vous voyez c'est la culture générale et je disais toujours que derrière Alexandre se profile Aristote. Tout le monde Alexandre c'est un grand soldat.
Mais et Aristote c'était son
que c'est Aristote oui.
Son
et
professeur.
Donc en fait je pense que il faut investir dans la culture générale. Il y a peut-être aussi Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan. Parce que ça c'est un très bon bouquin de management parce que si vous voulez une entreprise qui marche bien, c'est une petite nation. Et alors, vous avez toutes les recettes elles sont dans Qu'est-ce qu'une nation. Donc, je pense qu'avec ça.
Là, on a
Pauline,
une bonne liste.
On a du travail.
On a un peu de boulot.
Et puis, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va collecter tous les avis.
Ouais. Donc, comment est-ce que vous voulez faire? On se refait un truc dans un an ou deux encore?
Oui, c'est ça, absolument.
Le temps d'essayer
oui.
un
Moi,
peu
je vais vous
lire.
Envoyer, je vais vous envoyer les balles parce que, en fait, ce que je vais faire, c'est que, effectivement, c'est très utile à regarder quand on va en voiture.
Ah bah beaucoup des auditeurs du podcast écoutent pendant qu'ils sont en voiture.
On écoute quand on va en voiture. Moi, je roule,
j'écoute beaucoup. Dans le métro, en voiture, etc.
En métro, en voiture. Et à ce moment-là, un petit podcast.
Ouais.
Et puis, non, mais ce qu'on peut se faire après, si vous voyez, moi, j'ai pas mal de retours, vous voyez, par Twitter, etc.
Alors, justement, j'allais vous demander...
Il faudrait peut-être qu'on fasse un petit truc sur cette émission. Ça vous dirait pas qu'on s'amuse... Moi, je m'amuse à répondre.
Vous voulez dire
quand
sur...
Quand vous avez une question sur l'émission, ça m'amuse, hein, je suis très sérieux.
Mm-hmm.
Une question sur l'émission, vous me l'envoyez, puis j'y réponds de façon jolie. Ça vous amuse?
Ah, vous voulez dire que quand mes auditeurs posent une question, vous y répondez en...
Que je vous aide.
Ouais.
Non, ça vous aide? Bah,
si,
essaye.
Si,
bon,
on
ça
peut.
Ça coûte pas cher, hein. Mais vous m'envoyez le truc, puis je vous fais des jolies réponses.
Bah, avec plaisir.
Et je vais, vous voyez? Et si on fait ça en tweet, moi, je peux vous répondre avec des graphiques que je mets, vous voyez? Ça vous aide? Moi, ça m'a, si vous voulez, moi, je suis absolument passionné par,
la pédagogie.
Non, mais surtout maintenant, comment ça passe? Parce que si on m'arrête dans la rue, vous voyez, là pas en venant, mais hier, ah ben Monsieur Fontanet, je vous ai vu sur BFM, ah qu'est-ce que c'est sympa que vous recommandiez, avant-hier, oui, je suis chez Carrefour, j'achète des pommes de terre, et tenez-vous bien, le petit gars qui réapprovisionne,
il écoute émissions sur BFM.
Est-ce que vous êtes Monsieur Fontanet? Oui, Monsieur Fontanet de BFM. Oui, oui. Ah merci, c'est vachement bien.
Ah non, c'est
je
super.
Je me fais faire il y a un mois une piqûre. Il y a une jolie dame à côté de moi qui me dit, Monsieur Fontanet, est-ce que c'est vous? Et alors est-ce que c'est Monsieur Fontanet de BFM? Oui, madame. Oh, ben, madame. Moi, je mets mes petits-enfants pendant les vacances. Ça leur évite de faire du... Donc, il y a un truc qui m'amuse. Et donc, moi, ce qui m'amuse, c'est le cheminement des idées. Et je pense que les réseaux sociaux, il y a le sublime côtoie l'horreur. Et je pense qu'il y a des trucs horribles, mais il y a les trucs sublimes.
Oui, bien sûr.
Et là, je pense qu'il faut travailler la dimension sublime.
On est dans le sublime.
Ah, ça vous va?
Ça me va très bien. Xavier, justement, si j'ai des personnes qui nous écoutent, qui veulent prendre contact avec vous, comme la dernière fois, ben comment jugez, est-ce qu'on fait?
Ben vous me donnez mon,
Je alors, la bonne technique. Bah, déjà, ils peuvent s'abonner à votre compte Twitter, parce que
voilà.
Vous tweetez comme ça.
Je veux dire, le truc qui m'amuse beaucoup, voilà, je veux dire, j'ai énormément de demandes de rendez-vous.
Ouais.
Par Twitter. Oui. Rien qu'hier matin, vraiment, j'ai été interviewé par un type sublime. Il est plus jeune que vous. Et c'est un garçon qui est d'un niveau intellectuel ahurissant et qui a fait son site lui-même. Mmh. Et donc, il commence à avoir des gros volumes. Hein. Il a des 50 000. Il fait des petits articles, des petites interviews, etc.
D'accord.
Et ben, lui, si vous voulez, il m'a pris par Twitter.
D'accord.
Donc, en fait, il me suit.
Twitter, ça marche.
Moi, je vois tous les gens qui me suivent, je regarde, je descends le truc. Quand ça me plaît, et à ce moment-là, vous avez le mécanisme et ça, c'est le bon système, décentralisé. Et moi, si vous voulez, je dis OK, en fonction de ce qu'il a raconté. Et là, vous voyez, c'est par Twitter, mais on a passé un petit déjeuner tellement passionnant qu'on a passé encore une heure au téléphone le lendemain.
Génial.
Parce que le gars était tout frustré. Et là, on a passé une demi-heure le lendemain. Alors ça, c'est le truc le plus puissant. Et ça m'amuserait beaucoup parce que je pense que dans les réseaux sociaux, il y a quand même des choses formidables.
Mmh.
Hein. Alors il y a des trucs épouvantables, mais quand les gens sont connus, donc moi je ne tweete qu'avec des personnes.
D'accord.
Avec un nom et un prénom et un visage.
Vous voulez,
je veux pas des gars qui se cachent, des garçons ou des filles qui se cachent, ça je veux pas.
Faut être assumé avec vous.
Il faut assumer. Donc quand ils sont ça, et à ce moment-là, moi je trie, je regarde tout ce qu'ils ont mis, et à ce moment-là, je dis OK.
Et ben voilà.
Petit déjeuner.
Le mot est passé.
Bon, et puis on essaye de faire.
On se retrouve, voilà, on se retrouve.
Bravo, parce que non, ce que vous faites, c'est super puissant.
Et ben c'est gentil.
Et puis ça tombe bien, parce que c'est complètement dans la ligne de ce que je fais.
Hein. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on devait se rencontrer. Une jolie rencontre aussi. Merci mille fois,
Xavier. Merci beaucoup.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.